France Musique.
Bonjour à tous. Ce fut l'un des plus grands, sinon le plus grand ténor du XXe siècle. Une carrière phénoménale, des succès faramineux, un appétit d'ogre et une vie absolument incroyable. Je vous propose aujourd'hui, en rediffusion, de passer une heure avec le ténorissime Luciano Pavarotti.
Thank you.
Ah, mes amis, l'air célèbre de Tonio dans La fille du régiment de Gaetano Donizetti, c'était Luciano Pavarotti dans ses jeunes années sous la direction de Richard Bonengisi. Avec ses contrutes qui firent le succès, Luciano, au début de sa carrière, c'était le roi du contrut, disait-on alors. Faut dire, il les enchaîne avec une facilité dans cet air-là qui est absolument ahurissante. Indépendamment de toutes les critiques qu'on a pu faire sur Luciano Pavarotti, évidemment de ses excès, de ses caprices, on reviendra un peu là-dessus. Mais quelle voix quand même. Dans ces années-là, là, à la fin des années 60 jusque dans la fin des années 80, c'est-à-dire pendant à peu près 30 ans de carrière presque, il a gardé ce qu'on appelle la voix du bon Dieu, un truc miraculeux qui vous arrive comme ça et dont certains ne savent d'ailleurs pas trop quoi faire. Lui, il sut vraiment, avec cette voix qui avait tellement de soleil, tellement de lumière, on l'a dit mille fois, mais aussi cette couleur, ces inflexions, la précision de l'émission, on l'a entendu ici, qui est absolument impeccable, des aigus qui claquent, qui vous renversent, bref, une voix non seulement prenante émotionnellement, très impressionnante, mais aussi capable de provoquer une pure jouissance d'écoute. Bref, on va passer une heure avec lui, rien que pour le plaisir.
Oh,
L'air de Fernando, extrait de la favorite de Gaetano Donizetti, à nouveau, toujours Luciano Pavarotti, l'orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par Edward Downes, extrait du récital de 1968, très connu, certainement le plus beau qu'ait enregistré Luciano Pavarotti, alors qu'il avait 33 ans, c'était pas un débutant, il avait un beau début de carrière derrière lui, mais enfin on était quand même au début de son grand succès public. Rappelons que Luciano est né le 12 octobre 1935 à Modène, ville à laquelle il resta très attaché, où il devait mourir, 71 ans plus tard, très attaché aussi toujours à ses parents. Son père qui était boulanger, ténor, amateur, qui le fit chanter dans sa propre chorale, et sa mère qui était employée dans une fabrique de cigares, comme Carmen. Et c'est elle, en quelque sorte, qui fut parmi les premiers à se dire que son fils avait vraiment une voix hors du commun. Parmi ses professeurs, un certain Arrigo Pola, auquel l'amena son père alors que Luciano avait 19 ans. Lui avait déjà une belle carrière de ténor international, Arrigo Pola. Il se rendit compte immédiatement qu'il avait avec Luciano un superbe matériau. Ce fut le premier à le faire travailler vraiment très sérieusement pendant 3 années, de ténor à ténor. Nul doute qu'il a fait passer beaucoup de petits trucs sur le métier et puis beaucoup de choses très fondamentales sur la manière de placer et de projeter sa voix. Parmi ses premiers rôles à Luciano, eh bien, un qui lui va comme un gant dès le départ, c'est celui de Rodolfo de la Bohème. Il fait ses débuts avec Rodolphe en 1961. Il étrennera avec lui toutes les grandes salles dans les années 60 à Vienne, Milan ou New York, qu'on entend ici un peu plus tard avec Mirella Freni en duo.
Non ci
La finale du troisième acte de la Bohème de Puccini, c'était Myrilla Freni, Luciano Pavarotti, rejoint au milieu de cette grande air par Elisabeth Harwood et Rolando Panerai, l'orchestre philharmonique de Berlin dirigé en 1972 par Herbert von Karajan.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
De noms à retenir autour de Luciano Pavarotti dans l'extrait qu'on vient d'écouter. Myrilla Freni tout d'abord, ils étaient amis d'enfance tous les deux, ils avaient grandi ensemble et étaient restés amis toute leur existence, se construisant même du côté de la carrière assez parallèlement. Myrilla Freni racontait que leur maman travaillait dans la même usine de cigarettes, que les deux chanteurs avaient même partagé la même nourrice. Et elle complétait même en disant, en plaisantant bien sûr, en montrant Luciano qui était à côté d'elle, vous avez vu, c'est lui qui a bu tout le lait. Manière de faire allusion évidemment au gabarit de Luciano Pavarotti. Et puis l'autre nom, c'est celui d'Herbert von Karajan, qui est l'un de ceux qui a mis vraiment le pied à l'étrier de la carrière internationale de Luciano Pavarotti. En 1965, le chef ouvre les portes de la Scala de Milan à Luciano, qui lui en restera toujours éternellement reconnaissant. Le trio d'ailleurs, Freni, Pavarotti, Karajan, a enregistré au moins deux chefs-d'œuvre ensemble, cette Bohème qu'on vient d'écouter, et puis deux ans après, Madame Butterfly.
Yeah! Vibrant ce duo d'amour à la fin du premier acte de Madame Butterfly de Giacomo Puccini, Luciano Pavarotti et Mirella Freni, qui forment vraiment un duo formidable. Je vous disais tout à l'heure l'amitié qui les liait depuis l'enfance. Je sais pas, c'est ce qui fait que l'entente est aussi forte, mais en plus, les voix sont très différentes. Quand on entend ici Mirella Freni, qui a une voix de crème, veloutée, tout en douceur, ce qui n'empêche pas la puissance, bien sûr, et Luciano Pavarotti, beaucoup plus acéré, qui impose quelque chose comme un désir très pressant, qui est évidemment dans le rôle de Pinkerton, on se dit que oui, des caractères différents, des voix différentes peuvent faire un duo parfaitement coordonné, surtout quand il y a Karajan qui dirige, c'était le cas ici dans cette version de Madame Butterfly, avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne en 1974. Pour ceux qui voudraient les retrouver encore, ce duo-là, eh bien, je vous signale une Manon Lescaut avec James Levine, qui est aussi un disque absolument d'anthologie. Une autre chanteuse avec laquelle Luciano a formé un duo très très fort. Alors ça, c'était à peu près dans le même moment, dans les années 70, mais je dirais plus voulu peut-être par l'industrie du disque. C'est John Sutherland. Belle rencontre, évidemment, entre les deux, mais avant tout une rencontre professionnelle de chanteurs vedettes qui vont devenir, dans ces années-là, vraiment le couple qui enregistre en duo de manière quasiment systématique. Norma, La Somnambule, Rigoletto, et puis surtout cette Lucia d'anthologie.
Dio ci ascolta, Dio ci rivede, perché dare il cuore amante al tuo fato, unisco il mio.
Oh,
John Sutherland et Luciano Pavarotti en duo dans Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. C'était en 1971 à Covent Garden sous la direction de Richard Boninge.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Je vous rappelle que nous passons une heure ensemble sous le titre « Mon ami Luciano ». Un des grands rôles de Luciano Pavarotti, l'un de ceux qui l'ont vraiment marqué, c'est celui du duc dans Rigoletto. Luciano Pavarotti en duc du Rigoletto de Giuseppe Verdi, dirigé à nouveau par Edward Downes sur ce splendide récital de 1968. On n'a pas précisé encore que Luciano Pavarotti était naturellement ce qu'on appelle un ténor lyrique, c'est-à-dire relativement léger par rapport à un ténor dramatique. Il le resta d'ailleurs prudemment pendant les 10 premières années de sa carrière. Et puis, au cours des années 70, lentement, rôle après rôle, il alla vers des emplois plus dramatiques, plus lourds, le Enrico du Trouvert ou Mario de la Tosca, Puccini, et ce jusqu'à Othello, à la fin des années 80, 1991 même, je crois, pour la date de prise de rôle, un rôle qui, a priori, Othello n'était pas pour lui, trop sombre, trop dramatique, mais la voix, il est vrai, il avait passé les 50 ans, la voix commençait à s'assombrir, du coup, il a développé une sorte de potentiel, non seulement plus sombre, mais plus violent et plus sauvage, alors qu'au début de sa carrière, Luciano Pavarotti se cantonnait plutôt au rôle de gentil garçon, façon Donizetti. C'est dire qu'il a mené sa carrière vocale avec énormément d'intelligence, une très grande conscience de ce qu'il pouvait faire, une très grande conscience aussi de ses limites. Et pourtant, on se dit des limites, il n'en avait pas. Mais si, toute voix a des limites, encore faut-il savoir comment on arrive à les négocier. Et Pavarotti savait faire ça merveilleusement. On va l'entendre ici dans Othello, justement, et le grand duo d'amour avec Irite Kanawa. Enfin, comprenez, Desdemone.
Thank you.
Le duo d'amour entre Desdemone et Otello dans l'Otello de Giuseppe Verdi, Kirite Kanawa, Luciano Pavarotti, l'Orchestre Symphonique de Chicago enregistré en avril 1991 sous la direction de Georges Scholti. Je parlais tout à l'heure de ces passages des rôles lyriques vers des rôles un peu plus héroïques, on va dire. Vous rappelez que la carrière de Luciano Pavarotti a été très bien et très intelligemment menée. On l'a oublié parfois, on s'est foutu beaucoup de lui avec toutes ses manies, ses exigences, ses caprices, ses contrats de 25 pages, qui stipulait qu'il fallait la bouteille d'eau à tel endroit, que le taxi devait venir le chercher là, stipulant parfois la couleur des murs des chambres d'hôtel, qu'il fallait changer la couleur des murs des chambres, parce que c'était mis dans le contrat de Luciano Pavarotti. Et on le faisait évidemment parce qu'on avait envie de l'avoir. C'était le ténor le plus cher du monde, celui qui était le plus exigeant. Mais enfin, quand il était sur scène, il se passait tellement quelque chose. Ceux qui l'ont vu s'en souviennent, bien sûr. Il y a quelque chose de tellement vibrant dans la manière même dont il apparaissait quand la voix mettait à se déployer, même s'il bougeait très très peu. Il était relativement statique, mais la présence était vraiment bien réelle, elle était bien là, quoi. Sur les rôles de Luciano Pavarotti, ah oui, quand même quelque chose à dire qui est intéressant, il en a fait 36 dans toute sa carrière. 36 rôles dans une carrière qui a été longue quand même, hein, pas un demi-siècle, mais pas loin. Ça peut en semblera beaucoup comme ça, mais enfin, faut mettre en regard Placido Domingo, 140 rôles. Vous allez me dire, Placido est un monstre. Oui, alors que Luciano n'était qu'un ogre. Bon, d'accord. Mais ça dit quand même que Luciano Pavarotti s'est vraiment concentré, encore une fois, sur ce qu'il savait faire. Il avait des difficultés à intégrer, déjà à lire la musique, et puis à intégrer les partitions. Donc, il prenait le temps. Il prenait vraiment le temps, mais il les avait vraiment incorporés, ces rôles. Il faisait parler de lui, il faisait parler à travers lui, et c'est ce qui explique aussi peut-être que sa présence sur scène était aussi forte. On va le retrouver ici en Mario de la Tosca. De Mario Cavaradossi au troisième acte de la Tosca de Puccini, Luciano Pavarotti qu'on entendait ici. Dernier, Luciano, ce sera pour le bal masqué, le tout final et la mort de Riccardo.
Et morte, te lo giuro, Iddio ascolta. Io che amai la tua canzone, te rispettato il suo candor. A novembre in carco asceso tu con lei partir dovevi. Io l'amai ma volli illeso in tuo nome il suo. Grazie a ognun, signore qui sono, tutti a salve il mio perdono.
Le final du bal masqué de Giuseppe Verdi, chanté en 1971 par Luciano Pavarotti. Ainsi s'achève notre portrait du ténorissime. Très bon week-end à tous. On se retrouve dès lundi 15h pour une nouvelle semaine de rediffusion façon relax.
À réécouter sur francemusique.fr.